Petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie.
Sommes-nous faits pour le changement ? Beaucoup d'hommes d'État successifs se plaignent en France, mais aussi ailleurs, de ce que la population refuse le passage à l'acte des réformes. Le changement, c'est-à-dire l'ouverture, l'altérité, vivre autrement, eh bien ça fait peur. On a parfois raison, c'est sûr, de redouter des changements régressifs ou trop risqués. Mais fondamentalement, l'anthropologie peut parler de l'altérité constitutive de la conscience humaine. Cependant, les pharisiens et les scribes de tous les temps refusent toute ouverture à l'altérité, c'est anti-humaniste. Toute prise de conscience, et nous l'avions dit dans une émission précédente, est une mise en opposition, une dialectique, une dialectique du oui et du non, du permis et de l'interdit, etc. Prendre conscience, c'est s'ouvrir à l'altérité des contraires, c'est poser une alternative. L'ouverture à l'altérité est source de moralité. Dans la critique de la raison pure, Kant, né en 1724 et mort en 1804, prend l'exemple du menteur. Oui, il a des circonstances atténuantes, le menteur, ce sont les déterminismes de sa vie. Méchanceté naturelle, mauvaise éducation, mauvaise fréquentation, et on remarque que Kant prend des exemples de déterminisme naturel et des déterminismes culturels dans ce que je viens de dire. De facto, on blâme fréquemment le menteur malgré son irresponsabilité apparente. Pourquoi ? Parce qu'on est convaincu que le menteur aurait pu, je cite Kant, déterminer autrement sa conduite. La conscience produit une altérité. Altérité du même ordre que pour la prise de conscience, à savoir mettre en question. Mettre en question ici mon penchant naturel et culturel qui m'incline à mentir. La Fontaine, Jean de La Fontaine, au XVIIe siècle, avait déjà mis en évidence ce facteur d'hominisation qui est l'accès à l'interrogation, à la mise en question. Dans Le Loup et l'Agneau, c'est très connu ça, le loup finalement reste un animal. En effet, il rejette la mise en question de son déterminisme carnassier. Il ne s'ouvre pas à l'altérité de l'agneau, à l'alternative de faire autrement, à savoir laisser l'agneau en paix. Mais on voit bien ce qui aurait été l'hominisation du loup. Se laisser mettre en question, s'ouvrir à l'altérité d'autrui, accéder ainsi aux scrupules et à la moralité. L'ouverture à l'altérité est aussi source de la liberté. Faire preuve de liberté accomplit le même processus que faire preuve de moralité ou être capable de prendre conscience. C'est toujours le même processus. C'est choisir, mettre en question le pour et le contre, mettre en question en s'opposant au déterminisme naturel et culturel. En fait, Mes choix semblent toujours avoir des raisons, vertueuses ou non, peu importe là, qui s'imposent à moi, des choix qui s'imposent à moi. Et du coup, ils dictent en un sens ma conduite, où est donc passée la liberté. Peu de place pour une décision créée, c'est-à-dire décidée à partir de rien, bref, libre. En pratique, le vécu de ma liberté se présente différemment, pas comme on vient de dire. Camus disait Je cite, « Ma liberté est dans la marge d'insécurité que me font prendre mes choix. » Eh bien, ma liberté est dans l'hésitation. L'altérité des possibles, dans cette altérité des possibles. Suivre, malgré le doute, une décision. Je ne sais pas trop, à l'avance, quel est le bon choix. Encore une fois, vertueux ou pas, c'est pas ici la question. Mais je vais choisir dans l'altérité et sans certitude. Et là, j'éprouve ma liberté. Faute d'une clarté, d'une raison claire, on pourrait parler de hasard de mes choix. Peut-être, mais ma liberté se vit justement dans l'acte d'assumer ce choix, dans la prise de risque et le coup d'audace, comme dirait Kierkegaard. Ce sont des formules du philosophe danois Kierkegaard. Et j'ajoute un exemple, c'est que, par exemple, j'ai eu hésité, moi, entre faire preuve de philo ou être ingénieur, j'avais fait une série scientifique au bac, là, j'ai éprouvé ma liberté parce qu'il y avait une part d'incertitude assumée. Pourtant, mon choix est peut-être déterminé, en fait, inconsciemment. Mais peu importe, j'éprouve réellement ma liberté dans le pari que je fais. C'est-à-dire dans l'altérité des probables et non dans l'identité du certain. Plus profondément, les existentialistes comme Sartre ou Merleau-Ponty ont une expression caractéristique. Ils ne disent pas qu'ils ont des projets. Moi je dis j'ai le projet de partir en vacances, etc. On emploie le verbe avoir. Ils disent, eux, qu'ils sont projets, avec le verbe être. C'est en ce sens qu'ils se disent libres. L'idée est que la conscience se projette vers un ailleurs, vers un autrement, vers un futur. Être projet, c'est à chaque instant dépasser une situation de départ. Situation, elle, déterminait la situation de départ. La liberté est dans le dépassement de celle-ci. Certes, on pourra toujours trouver dans mon passé les raisons de ce que je suis devenu. Mais on pourra constater aussi que ce n'était pas joué d'avance et qu'il n'y a pas eu et qu'il n'y a jamais de fatalité. Faire et se faisant se faire, disait Sartre. La prise de conscience est ici de voir que la conscience se transcende. Ce transcende, c'est-à-dire qu'elle est toujours hors d'elle-même, à la différence d'un caillou, par exemple, qui n'est jamais hors de lui-même. La conscience est hors d'elle-même vers un futur. Et de se projeter vers ce qui n'est pas encore, bref, à nouveau, de s'ouvrir à l'altérité. L'ouverture à l'altérité est aussi source de progrès. Prendre conscience d'une idée, c'est la mettre en question. Accéder à une conscience morale, c'est mettre en question mon comportement. Être libre, c'est mettre en question ce qui pouvait paraître une fatalité. Et bien de même, progresser scientifiquement, techniquement, économiquement, écologiquement, c'est dépasser une situation présente pour construire un avenir autre et meilleur. Toutes ces dimensions anthropologiques, conscience, morale, liberté, progrès, activent la même ouverture à l'altérité, à l'opposition d'un autrement que ce qui se présente à nous. Rousseau, qui met en évidence la perfectibilité de l'homme, souligne que les animaux ne progressent pas. sauf, peut-on rajouter, par domptage ou par mutation génétique, qui n'ont rien à voir avec le progrès dont on parle ici. Un pigeon, dit-il, dit Rousseau, un pigeon se laissera mourir de faim devant des viandes à sa disposition. Un chat se laissera mourir de faim devant un bol de graines, car ni le pigeon ni le chat ne mettent en question leur déterminisme nutritionnel, ne posent une altérité à leurs conditions. Et Marx, Karl Marx, insiste dans le Capital sur le fait que l'abeille construit toujours la même ruche, alors que l'architecte peut faire autrement que ce que les constructions du passé. Le philosophe Alain, né en 1868 et mort en 1951, rendra célèbre la formule « Être homme, c'est dire non ». La conscience introduit de la négativité dans le monde. Elle se propose des alternatives. Alain prend l'exemple du bateau à voile qui avance contre le vent par la force même du vent. Ceux qui ont fait un peu de bateau à voile savent que ce n'est pas tout à fait vrai. On avance effectivement avec le vent, contre le vent, mais en tirant des bords, comme on dit en langage marin, en faisant des zigzags. L'altérité est indispensable à l'existence même de la conscience et à son identité. Comme le montre Hegel, je n'existe qu'en m'opposant. Dans sa phénoménologie de l'esprit, l'histoire commence par la civilisation de l'affirmation de soi par la négation d'autrui, c'est-à-dire la civilisation du meurtre. Mais cette civilisation échoue car le cadavre du vaincu ne me sert à rien, même pas à me faire exister en me reconnaissant comme quelqu'un qui compte. Une civilisation nouvelle apparaît qui va procéder autrement, celle de la dialectique du maître et de l'esclave, où le vaincu n'est pas mort, mais asservi. Nouvel échec de cette civilisation, et nouvelle civilisation, le maître et l'esclave sont en mutuelle dépendance, le stoïcisme va tenter de libérer l'esprit en ne tenant pas compte de cette dépendance. Mais l'altérité ne se laisse ni nier, ni oublier, et l'histoire va continuer chez Hegel d'autrement en autrement. Si le progrès est mal orienté, comme cela semble être le cas aujourd'hui par l'épuisement de la terre et la pollution mortifère, l'homme peut le mettre à nouveau en question. L'ouverture à l'altérité peut se radicaliser en don de soi éperdu à l'autre. Comme le montre l'Évangile, et puis aussi finalement la littérature universelle, hein, l'amour est proche parent de la mort. Aimer, c'est voir dans ce que j'aime, une cause, un art, quelqu'un. Voir dans ce que j'aime l'appel au don éperdu de moi-même jusqu'à en mourir s'il le faut. Mais dès lors, la mort n'est plus l'échec de la vie, mais le comble de l'amour, ça change tout, nous en reparlerons.
C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.